Et maintenant, je vous propose d'écouter un extrait de L'Assommoir de Zola, le fameux chapitre 7, la fête de Gervaise.
Peut-on vous donner un coup de main ? Cria Virginie. Elle quitta sa chaise, passa dans la pièce voisine. Toutes les femmes, une à une, la suivirent. Elles entourèrent la rôtissoire. Elles regardèrent avec un intérêt profond Gervaise et maman Coupeau qui tiraient sur la bête. Puis, une clameur s'éleva, où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Et il y eut une rentrée triomphale. Gervaise portait loi, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle, tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand Loa fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. C'était un étonnement, une surprise respectueuse, qui avait coupé la voie à la société. On se la montrait avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin, quelle dame, quelle cuisse et quel ventre. Elle ne s'est pas engraissée à léger les murs, celle-là, dit Bosch. Alors on entra dans les détails sur la bête. Gervaise précisa des faits. La bête était la plus belle qu'elle eût trouvée chez le marchand de volailles du faubourg Poissonnière. Elle pesait 12,5 livres à la balance du charbonnier. On avait brûlé un boisseau de charbon pour la faire cuire. Et elle venait de rendre 3 bols de graisse. Virginie l'interrompit pour se vanter d'avoir vu la bête crue. On l'aurait mangée comme ça, disait-elle, tant la peau était fine et blanche. Une peau de blonde, quoi. Tous les hommes riaient avec une gueulardise polissonne qui leur gonflait les lèvres. Cependant, Lorilleux, Madame Lorilleux, pinçait le nez, suffoqué de voir une oie pareille sur la table de la banque. Eh bien, voyons, on va pas la manger entière, finit par dire la blanchisseuse. Qui est-ce qui coupe? Non, non, pas moi. Oh, c'est trop gros. Ça me fait peur. Coupeau s'offrait. Mon Dieu, c'était bien simple. On empoignait les membres, on tirait dessus. Les morceaux restaient bons tout de même. Mais on se récria, on reprit de force le couteau de cuisine aux zingueurs. Quand il découpait, il faisait un vrai cimetière dans le plat. Pendant un moment, on chercha un homme de bonne volonté. Enfin, Madame Lerat dit d'une voix aimable, « Écoutez, c'est à Monsieur Poisson. C'est certainement à Monsieur Poisson. » Et comme la société semblait ne pas comprendre, elle ajouta, avec une intention plus flatteuse encore, « Mais bien sûr, c'est un monsieur Poisson qui a l'usage des armes. » Et elle passa au sergent de ville le couteau de cuisine qu'elle tenait à la main. Toute la table eut un rire d'aise et d'approbation. Mais un gros silence se fit. La tête s'allongeait. Les regards suivaient le couteau. Poisson ménageait une surprise. Brusquement, il donna un dernier coup. L'arrière-train de la bête se sépara et se tint debout, le croupion en l'air. C'était le bonnet d'évêque. Alors l'admiration éclata. Il n'y avait que les anciens militaires pour être aimables en société. Cependant, Loi venait de laisser échapper un flot de jus par le trou béant de son derrière. Et Boss rigolait. « Oh, moi, je m'abonne !» murmura-t-il. « Pour qu'on me fasse comme ça, pipi dans la bouche !»« Oh, le sale !» crièrent les dames. « Faut-il être sale ?»« Non, oh, je ne connais pas d'homme aussi dégoûtant !» dit Madame Boss, plus furieuse que les autres. « Tais-toi, entends-tu ? Tu dégoûterais une armée. Vous savez que c'est pour tout manger. » À ce moment, Clémence répétait au milieu du bruit, avec insistance, « Écoutez, monsieur Poisson, vous me garderez le croupion, n'est-ce pas ?»« Ma chère, le croupion vous revient de droit, » dit Madame Lerat, de son air discrètement égrillard. Pourtant, loi a été découpée. Le sergent de ville, après avoir laissé la société admirer le bonnet d'évêque pendant quelques minutes, venait d'abattre les morceaux et de les ranger autour du plat. On pouvait se servir. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc. Toutes les dames avaient voulu de la carte. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que Maman Coupeau, qui adorait le coup, en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau quand elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau par galanterie, si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères, en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'on en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir mangé trop d'oies rôties, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que Loi avait fait jamais de mal à quelqu'un? Au contraire, Loi guérissait des maladies de rate. On croquait ça sans pain, comme un dessert. Lui en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise, à cause de Boche, qui lui disait tout bas des indécences. Ah, nom de Dieu, oui, on s'en flanque à une bosse. Quand on y est, n'est-ce pas? Et si l'on ne se paie qu'un gueuleton par-ci, par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse. Ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité.